8h23 à Paris, voici la revue de presse des journaux français. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, une belle journée pour la France.
Oui, une belle journée pour la France, c'est le grand titre du Parisien ce matin. Le Parisien qui, fidèle à son habitude, met l'accent sur les bonnes nouvelles. En effet, hier, on apprenait qu'Airbus avait décroché le contrat du siècle, une commande de 42 milliards d'euros signée avec Indigo, un fonds d'investissement américain qui aura donc préféré le groupe aéronautique européen à l'américain Boeing. Autre bonne nouvelle, pointe encore le Parisien, la France accueillera la Coupe du monde de rugby en 2023. Une victoire remportée à l'arraché sur l'Irlande et sur l'Afrique du Sud. En septembre dernier, rappelle le journal Paris, était officiellement désigné pour accueillir les JO d'été de 2024. De quoi nourrir quelque espoir pour l'exposition universelle de 2025, un projet pour lequel la France s'est également portée candidate et présentée officiellement hier. Alors, s'interroge le Parisien, est-ce le retour de la France qui gagne? Est-ce l'effet Macron?
Le Parisien est allé poser la question à plusieurs personnalités.
La confiance est de retour, croit déceler Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et qui scrute l'image de la France auprès de nos voisins. Pour cet ancien sénateur Les Républicains, pas de doute, il y a un effet Macron. Depuis des années, dit-il, la nation se fissurait en silence. L'élection d'un président jeune et moderne redonne du moral et muscle le mental. Alors, Emmanuel Macron, grand inspirateur de ce retour en grâce de la France, interroge encore le Parisien. Macron a beaucoup de chance, il est arrivé à un bon moment et récolte finalement ce que ses prédécesseurs ont semé, suggère Daniel Fasquel, député Les Républicains du Pas-de-Calais et ex-maire du Touquet. On est loin d'avoir gagné. Tempère pour sa part Gilles Legendre, député La République En Marche de Paris. Nous avons bénéficié, poursuit-il, de conjonctions fortuites, mais il nous reste à donner une dimension psychologique à cette embellie en refondant la confiance entre les Français et le personnel politique. En tout cas, en juillet dernier, rappelle le Parisien, l'Observatoire du bien-être en France notait un choc d'optimisme. 48% des Français envisageaient l'avenir positivement contre 20% seulement l'année précédente. À l'origine de ce redémarrage, la meilleure santé économique qui a été confirmée début octobre par l'INSEE, pointe encore le journal, l'INSEE qui a relevé sa prévision de croissance en France à 1,8% pour cette année 2017. L'Hexagone, conclut le Parisien, n'a pas connu un tel carburant depuis 6 ans.
À la une également, nouvelle journée de mobilisation syndicale ce jeudi contre la réforme du marché du travail.
Oui, pour le Figaro, les manifestations à l'appel de nombreux syndicats ne devraient pas attirer les foules. En septembre, les syndicats avaient déjà eu du mal, rappelle le journal, à mobiliser leurs troupes contre les ordonnances sur la réforme du marché du travail. Alors forcément, pointe le Figaro, plus d'un mois après leur entrée en vigueur, et alors que le projet de loi de ratification devrait être adopté le 4 décembre, c'est encore plus dur. Commentaire du quotidien de droite. La modernisation sans drame du code du travail, que l'on présentait comme la mère de toutes les batailles, tord le cou à une idée tenace, voulant que la France soit irréformable. Que le poids des corporatismes, l'agitation des syndicats, les calculs politiciens condamnent le pays à la paralysie. Preuve est désormais faite, estime le Figaro, que pour peu que l'on s'y prenne correctement, il n'en est rien. Voilà qui est encourageant pour la suite, conclut le journal. Pourquoi ce qui était possible sur la réglementation du travail ne le serait-il pas pour la réforme de l'État et la baisse des dépenses publiques?
Pour Libération, l'échec des manifestations marque l'échec de l'extrême gauche.
Oui, à savoir la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas réussi à rallier les salariés contre la réforme du code du travail. La France insoumise qui, du coup, change de stratégie, pointe Libération. Refroidi par le peu de succès des manifs syndicales de la rentrée, le leader de la France insoumise fait du pied à la jeunesse, espérant qu'elle donne un second souffle à la contestation. Premier test ce jeudi avec la mobilisation donc contre la sélection à la fac.
On reste avec Libération qui nous propose deux pleines pages sur la situation au Zimbabwe, un vrai faux coup d'État et la fin de l'ère Mugabe, point d'interrogation, le journal s'interroge.
Oui, en ménageant officiellement le couple présidentiel, les généraux zimbabwéens trahissent la volonté de ne pas remettre en cause l'héritage du pays et l'homme qui en reste le symbole, tout en précipitant des changements devenus inéluctables, relève Libération. En réalité, l'avenir immédiat dépendra en partie de la réaction de Mugabe. Va-t-il accepter l'idée d'une succession ou même d'une simple transition jusqu'aux élections prévues en 2018, s'interroge Liesel Lau Vaudran, analyste à l'Institut pour les études sur la sécurité basé à Pretoria en Afrique du Sud. Reste que la reprise en main par les militaires est avant tout une révolution de palais qui n'annonce pas forcément un changement de régime, estime Libération. Le chef des armées, le général Chiwenga, qui a orchestré ce coup, avait d'ailleurs participé activement, rappelle le journal, au processus de réforme agraire qui avait mené à l'expulsion des fermiers blancs. Il figure également sur la liste des personnalités zimbabwéennes qui ne peuvent pas se rendre en Europe ou encore aux États-Unis. Mercredi soir, les rues d'Harare étaient étonnamment calmes, pointe l'envoyé spécial du journal. Les gens dînaient au restaurant, tandis qu'une poignée de militaires était postée à quelques carrefours. Des rumeurs commençaient toutefois à annoncer l'exfiltration imminente de Grace Mugabe vers un pays de la région. En tout cas, relève Le Monde, pour la première fois, un mouvement de libération au pouvoir en Afrique australe vient de connaître une transformation par la force. La région va-t-elle admettre ce coup de force? C'est pour tenter de cimenter leur action et éviter les contre-coups des voisins du Zimbabwe. On pense bien évidemment à l'Afrique du Sud, que les militaires tiennent tant à assurer qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État et que le président Mugabe reste au pouvoir, du moins officiellement, mais dans les capitales de la région, pointe Le Monde. Chacun a compris le message.
Merci Frédéric Couteau. On revient sur la situation Zimbabwe dès le prochain journal, l'actualité africaine dans quelques secondes, puis Afrique Économie, les ambitions africaines de Randgold, les matières premières, la filière mondiale de cobalt qui néglige encore le travail des enfants en RDC et votre rendez-vous culture avec l'artiste peintre André Derain.